Ma banque a compris que pour moi, chaque euro compte.
Et en ce moment, nous vous proposons un prêt auto très intéressant.
D'accord, et au taux de...
Comment ça, au taux de...
Non, mais vous dites un prêt auto très intéressant. Et à quel taux?
Ah non, non, je voulais dire un prêt automobile très intéressant.
Pardon, excusez-moi, j'avais pas compris. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant, ce prêt auto?
Et son taux.
À la rentrée, ce sont les bons plans auto de la Banque Postale. Jusqu'au 5 octobre 2013, profitez d'une offre spéciale sur le taux du prêt personnel auto. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639. 15 centimes d'euros TTC la minute.
La Banque Postale.
Banque et citoyenne. Après l'acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale intermédiaire de crédit exclusif du prêteur.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Que ce soit en direct ou en podcast, vous êtes très nombreux à nous rejoindre chaque après-midi au cœur de l'histoire pour suivre le récit de Franck Ferrand, son entretien avec un prestigieux invité et le nouvel éclairage de fin d'émission au retour aux origines. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous, que tout cela est bien résumé. Alors merci à tous les fidèles, certains sont là depuis très longtemps, ils me le disent quand nous nous croisons dans la rue, et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle saison. À la fin de l'émission, c'est vrai, nous reviendrons sur une passion française aujourd'hui, celle des jardins. Cette année le nôtre. Avant cela, nous aurons fait mieux connaissance avec un personnage magnifique, étonnant, Nicolas Fouquet.
Et vous avez invité Jean-Christian Petit-Fils à venir nous parler de Fouquet.
Et oui, c'est dire si nous sommes gâtés. Et tout de suite, je vous propose de prendre la route de Nantes. Nous allons nous retrouver dans l'ancienne capitale bretonne, un certain 5 septembre 1661, au petit matin. Un mousquetaire du nom de D'Artagnan s'apprête à mener au nom du roi l'arrestation, disons-le, du ministre des Finances de l'époque.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Nous avons tous plus ou moins nos années fastes et néfastes. On peut dire sans risque d'erreur que pour Nicolas Fouquet, surintendant des finances du jeune Louis XIV, 1661 aura été une année néfaste et même l'année fatidique. Son maître et ancien protecteur, le cardinal de Mazarin, reste peu loquace à son sujet au moment de rendre l'âme. Sur son lit de mort, c'est Jean-Baptiste Colbert qu'il recommande au roi. Un jeune Jean-Baptiste qui, sous ses airs impavides, nourrit contre Nicolas, si je puis dire, une haine dévorante. Au moment de la mort du cardinal, la cour est à Vincennes et Fouquet n'est pas loin puisqu'il réside dans sa somptueuse demeure de Saint-Mandé. Le roi le sait évidemment et déjà il s'en irrite. Quelque chose en ce jeune roi se rebelle contre le surintendant des finances. Il y a longtemps qu'il suspecte cet homme trop brillant, trop prodigue, de détourner l'argent public. Question, les soupçons du roi sont-ils fondés ? Eh bien, je dirais que dans l'esprit, c'est à voir, mais dans les faits, c'est tout vu. Quand Mazarin meurt en mars 1661, la faveur de Fouquet semble à son apogée. Il contrôle le conseil privé du souverain, qui le charge de créer un conseil du commerce et lui confie plusieurs missions de diplomatie secrète. Le jeune roi attend depuis longtemps le moment où il va pouvoir reprendre en main cette situation et enfin mettre de l'ordre dans les affaires. Or, en ce mois de juin 1661, ce moment paraît être venu. Alors on connaît la célèbre séance du Conseil qui va marquer la prise du pouvoir par Louis XIV. Si l'on en croit l'homélie de Brienne dans ses mémoires, du reste publiée moins de 3 ans après l'événement, voici les termes qu'employa ce matin-là le jeune roi pour parler au cercle rapproché de ses grands serviteurs. « Messieurs, je vous ai fait assembler, vous mes intendants, avec mes secrétaires d'État, pour vous dire que jusqu'à présent, j'ai bien voulu laisser gouverner mes affaires par monsieur le cardinal. Il est temps que je les gouverne moi-même. Vous m'aiderez de vos conseils quand je vous les demanderai. Je vous prie et vous ordonne, monsieur le chancelier, de ne rien faire désormais sans mes ordres, et vous, mes secrétaires d'État, je vous défends de rien signer sans mon ordre exprès, de me rendre compte chaque jour et à moi-même. » Tout le monde a compris. Tout le monde, sauf peut-être Nicolas Fouquet. Le surintendant des finances, un fin sourire aux lèvres, se dit que les ardeurs du jeune souverain vont s'émousser bien vite et que lorsque sa crise d'autorité sera passée, le pouvoir reviendra tout naturellement aux gens dont c'est le métier. Erreur d'appréciation, fatale erreur. Disons-le, Nicolas Fouquet se laisse aveugler par sa confiance en lui et en la vie. Du coup, il passe à côté de la situation. Il continue très imprudemment à présenter au roi des comptes falsifiés, ce que Colbert, entre-temps, a reçu l'ordre de relever, de consigner en vue d'un procès futur contre ce grand commis très suspect. Vous allez voir que tout ça est très ficelé en amont. Pour dire les choses froidement, deux éléments sont difficiles, deux éléments font obstacle en quelque sorte à la chute du surintendant. D'abord, sa charge de procureur général au Parlement de Paris, et qui fait qu'il n'est justifiable, que devant ce Parlement qu'il contrôle. À cette époque, ce qu'on appelle le Parlement, vous savez, c'est une institution judiciaire à mi-chemin de notre Conseil d'État et de notre Cour de cassation. Deuxième problème pour Colbert et le roi, le surintendant jouit de la faveur de la reine-mère. Colbert, méthodiquement, va liquider un à un ces deux obstacles. D'abord, il s'arrange pour que Fouquet propose au roi de vendre sa charge de procureur au Parlement. Et puis, il va monter contre son ennemi, la duchesse de Chevreuse, qui est la vieille amie d'Anne d'Autriche. Évidemment, le principal intéressé ne voit pas le vent venir. Contrairement à la légende, la fête extravagante du 17 août 1661 ne sera pas la cause de la chute de Fouquet. La décision de se passer de lui, de l'aveu même du roi, a été prise avant cela, le 4 mai. Elle s'explique principalement par l'impression que Louis XIV a eue d'être berné par Fouquet. Après lui avoir promis de revenir à une gestion plus saine de ses finances, le surintendant, en effet, est retombé dans ses anciennes pratiques. Tout cela figure en toutes lettres dans les mémoires de Louis XIV. Là, c'est le roi lui-même qu'on a l'impression d'entendre parler. Alors, je ne vais pas vous lire ça maintenant, mais si cela vous intéresse, vous trouverez le texte sur mon site francferrand.com, et si l'ensemble des mémoires de Louis XIV vous intéresse, alors vous les trouverez publiés sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils, nous en parlerons tout à l'heure. Or, la résolution du roi se durcit quand Colbert lui remet des rapports sur les fortifications et l'armement de Belle-Île. Il faut vous dire que depuis longtemps, Fouquet était armateur, qu'il s'est intéressé à la course, aux corsaires si vous voulez, qu'il a eu l'ambition de créer en Bretagne une puissance qui pourrait servir de base à de vastes entreprises coloniales. C'est dans cette optique qu'il a déjà fait fortifier l'île Dieu qui lui appartient, et puis il a acheté Belle-Île et là, carrément, il en a restauré les murailles, il a fait bâtir un port, des magasins, des entrepôts. On pourrait parler d'une place de sûreté, peut-être même d'un refuge pour le cas où il serait en difficulté avec la couronne. Là maintenant, il y a de quoi inquiéter le roi, avouez-le. Il y a en tout cas au moins de quoi l'exaspérer. Et d'autant plus que Fouquet commet une gaffe majeure. Il offre beaucoup d'argent à Louise de La Vallière, qui est la maîtresse du roi, mais dont lui pense, à tort, une nouvelle fois, qu'elle n'est qu'une passade. C'est quand même curieux, avouez-le, qu'un homme aussi intelligent que Fouquet commette autant d'erreurs de jugement. Peut-être cet homme-là était-il tout simplement trop occupé de lui-même pour comprendre les autres. Un de ces jours, le cher Fouquet finira par se réveiller. Seulement à ce moment-là, il sera trop tard. Il aura beau demander pardon pour ses fautes, son sort sera scellé. D'ailleurs, en vérité, il l'est déjà. Louis XIV, mentalement, lui a déjà réglé son compte. Le roi et Colbert pensent qu'il est grand temps de créer en France une administration financière et fiscale digne de ce nom. Vous savez, comme diraient nos historiens d'aujourd'hui, il est temps que l'état de justice cède la place à l'état de finance. Nicolas s'est laissé aveugler par sa réussite. Il a cru très vite qu'il allait enfin devenir une sorte de Mazarin bis, ou plutôt un Richelieu-terre. Au lieu de cela, au niveau où il évolue, on peut dire que le genre d'erreur d'appréciation qu'il commet ne pardonne pas. Au lieu de cela, il va se trouver précipité du sommet du Capitole. Pour le moment, il peut encore affecter une certaine confiance en lui. Il a reconnu ses torts, il est toujours l'homme le plus riche du royaume. La preuve, il s'apprête à recevoir la cour pour l'inauguration de son fastueux château de Vaux, qu'on appelle nous aujourd'hui Vaux le Vicomte. Alors, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de décrire cette fameuse fête, hein, l'une des plus fastueuses de tous les temps, et on en parlait d'ailleurs encore hier, ici même, avec l'artificier Jean-Éric Rougier. Ah, le coquin, le fieffé coquin, aurait murmuré Louis XIV, choqué d'un tel étalage de richesses volées, c'était du moins son point de vue, et cet écureuil insolent qu'il affiche partout comme une provocation. Vous savez que Fouquet avait comme symbole cet écureuil. Fouquet, c'est en patois du sud-ouest, ça, c'est un écureuil, hein. Et cet écureuil, on se demande jusqu'où il grimpera. Ah, madame, aurait dit, si l'on en croit l'abbé de Choisy, le roi en montant ce soir-là en carrosse. Ah, madame, dit-il aux oreilles de sa mère, ne ferons-nous pas rendre gorge à ces gens-là? Ainsi, la disgrâce est-elle consommée. Comme devait l'écrire Voltaire dans un de ses raccourcis dont il avait le secret, le 17 août à 6 heures du soir, Fouquet était roi de la France, à 2 heures du matin, il n'était plus rien. À quoi Paul Morand ajoutait « Vaut ou le songe d'une nuit d'été ». Maintenant, Louis XIV cherche le moyen le plus sûr de mettre le surintendant hors d'état de nuire. Pourquoi ne pas l'arrêter à Paris? Ce serait assez simple. Oui, seulement dans l'esprit du roi, les souvenirs de la Fronde sont encore frais. Mazarin disparu, personne ne peut répondre de l'attitude de la noblesse, du Parlement, même du peuple en cas de coup de force. Or, l'arrestation du surintendant des finances, un homme que l'on voyait déjà Premier ministre, est ce qu'on peut appeler un coup de force. D'un autre côté, avant d'arrêter Fouquet, le roi doit s'assurer par un déploiement de force en Bretagne que l'accusé n'ira pas se réfugier dans sa forteresse de Belle-Île. Éloigner le surintendant de Paris et mettre les routes de Belle-Île sous contrôle, voilà les deux objectifs qui justifient le déplacement de la cour, Fouquet y compris, jusqu'à Nantes. Il faut un prétexte. Eh bien, le roi émet le souhait d'aller présider lui-même les États de Bretagne qui doivent se tenir en septembre dans cette ville. Et voilà comment, le 5 septembre 1661, vous avez vu que la programmation est bien faite, c'est le jour anniversaire aujourd'hui. Ce 5 septembre qui est aussi le jour du 23e anniversaire de Louis XIV, le roi décide de passer à l'action. Ça fait 4 jours en vérité qu'en compagnie de Colbert, il règle dans le plus grand secret et avec beaucoup de minutie les détails de l'arrestation du surintendant.
Europe 1, 14h, 15h.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Écoutez Lully avec la marche du régiment du roi et on vous retrouve Franck par la pensée à Nantes pour
eh
la
oui,
suite de votre
récit. Par la pensée
récit.
Comme vous dites. Alors nous sommes donc le 2 septembre 1661. Ce jour-là Fouquet ne se sent pas bien, il assiste au conseil et ensuite il va se retirer pour se reposer. Il y a une ambiance assez étrange au château, vous savez, et cette ambiance, un proche de Fouquet va l'apercevoir mieux que d'autres, c'est Brienne. Il entend des chuchotements, il voit des regards bizarres. Vous savez, ces espèces de papiers qu'on lit hâtivement et qu'on cache lorsque passe le personnage qu'on n'a pas envie de voir. Brienne aperçoit aussi pas mal de mousquetaires dans la salle des gardes. À 15h, le roi l'a convoqué. Le roi sait très bien, évidemment, qu'il est en très bon terme avec Fouquet. Et il l'envoie prendre des nouvelles du surintendant qui, paraît-il, n'est pas bien. Brienne est donc reçue par Fouquet, qui est allongé sur son lit. Il est malade. Et lui demande de ses nouvelles de la part du roi. « Sa Majesté s'enquiert de votre santé. »« Oh, le roi a bien de la bonté pour moi, » répond Fouquet. « Dites-lui que je réponds des États de Bretagne. Dites-le-lui surtout bien. Plusieurs députés sont venus me trouver. Ils feront ce que Sa Majesté souhaite et même au-delà. » Fouquet hésite un moment et puis baissant la voix, il se confie à Brienne. « Vous êtes un peu de mes amis, n'est-ce pas? Je vais m'ouvrir à vous. Colbert est perdu. » Et ce sera demain le plus beau jour de ma vie. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Alors même qu'on est en train de préparer sa propre chute, il est convaincu, ce Fouquet, que c'est celle de Colbert qui est en préparation. C'est qu'une haine farouche oppose ces deux hommes, et nous allons y revenir évidemment en compagnie de Jean-Christian Petit-Fils. Colbert est Fouquet pour toutes les raisons du monde, mais aussi peut-être parce que le surintendant est tout ce qu'il rêvait d'être et ne sera jamais, parce que Fouquet est né dans la très haute bourgeoisie de robe et qu'il est entré dans les arcanes, dans les cercles du pouvoir par la grande porte, qu'il est aimé des femmes, qu'il est entouré d'artistes. Fouquet, nous disait Madame de Sévigné, c'est le Grand Nord, hein, c'est tout autre chose. Colbert et Colbert a rédigé un grand rapport pour Mazarin. Il l'a rédigé d'ailleurs il y a longtemps, bien avant la mort de Mazarin, en 1659, sur le désordre des finances, sur ce qu'il considère comme les malversations de Fouquet. Mais puisque le ton est aux confidences, Brienne raconte ce qu'il a vu au château, la chambre du roi condamnée, quand même le comte de Saint-Aignan est là, hein, qui filtre les entrées. Saint-Aignan est très proche du jeune Louis XIV, et on dit qu'il agite une petite sonnette à l'arrivée de chacun de tous les visiteurs non prévus. Brienne parle au surintendant des papiers qui circulent sous le manteau, des sentinelles qui sont là postées dans les couloirs. Tout cela ne vous présage rien de bon, lui dit-il. Vos amis craignent fort pour vous. Il prévient Fouquet, vraiment ? Non, Fouquet n'est pas inquiet. Le surintendant assure que toutes ces cachotteries sont le signe avant-coureur de l'arrestation de Colbert. J'ai moi-même donné les ordres pour le faire conduire au château d'Angers. Pendant ce temps-là, dans les appartements du roi, Louis XIV est en train de s'entretenir avec un certain D'Artagnan. Ah oui. Il s'agit bien du mousquetaire immortalisé par Alexandre Dumas. Sauf que là, c'est le vrai D'Artagnan, pas le personnage de roman. Il se trouve que ce jour-là, lui aussi est malade. C'est devenu un monsieur d'un certain âge. Évidemment, on n'est plus à l'époque des ferrets de la reine. Il se présente devant le roi aidé par deux hommes, parce qu'il n'est vraiment pas en forme. Et Louis XIV le prévient qu'il avait jeté les yeux sur lui pour l'exécution d'une résolution qu'il lui aurait communiquée s'il avait été en meilleur état. Mais qu'il fallait remettre la partie à 2 ou 3 jours pendant lesquels il lui recommandait d'avoir soin de sa santé. Il y a toujours cette espèce de... Il y a toujours ce style assez particulier qu'on reconnaît lorsque des contemporains citent Louis XIV. Alors qui est-il, ce Charles de Bas-Castelmort, sieur d'Artagnan ? Qui est-il, ce vrai d'Artagnan ? Oh, c'est un Gascon bien discipliné en qui l'on peut avoir totale confiance. Mazarin le considérait comme un des gentilshommes ordinaires de la garde. Il était d'ailleurs engagé dans plusieurs missions à cette époque et le roi avait appris à le connaître et à l'estimer. C'est pourquoi il l'avait choisi pour arrêter Fouquet. Il l'avait préféré à Monsieur de Gesvres, qui normalement était le capitaine des gardes de quartier, hein, celui qui aurait dû assumer cette fonction. Mais il se trouve que M. de Gesvres était très proche de Fouquet, auquel il devait sa pension. Le plan, je devrais dire le piège, tranquillement, est en train de se refermer. 3 jours plus tard, le dimanche 4 septembre 1661, D'Artagnan se présente au cabinet du roi. Il va mieux. Le roi lui donne ses instructions, et on parle de finances évidemment. Il doit, quand il lui en donnera l'ordre, il doit arrêter le surintendant, le conduire au château d'Angers sous bonne escorte avec prudence et adresse. Ça c'est assez extraordinaire parce que Louis XIV a attendu que D'Artagnan soit remis, qu'il soit de nouveau sur pied, pour arrêter Fouquet. Le roi glisse donc à D'Artagnan un long mémoire, c'est l'ordre écrit d'arrestation. Il y a là-dedans tous les détails de son plan, il y a les laissez-passer nécessaires pour traverser la France. Il y a même 1 000 louis d'or alloués pour les dépenses de D'Artagnan, achat de vaisselle et de meubles pour le prisonnier, les frais d'aménagement pour son logement, etc. Et là on a envie de dire, pauvre Fouquet qui ne se doute de rien, enfin tout de même. Ce fameux dimanche, le roi a prié Brienne de se rendre auprès de Fouquet pour lui rappeler que le conseil du lendemain se tiendra de très bonne heure afin de ne pas gêner son départ pour la chasse. Brienne s'exécute, Fouquet l'accueille cette fois debout et habillé. Lui aussi est remis sur pied, il mange même de bon appétit. Brienne nous dit qu'il mange du poulet, qu'il boit du vin. Et pour autant, son moral n'est pas au beau fixe. La confiance qu'il affichait jusqu'à ces derniers jours, cette confiance ne serait-elle donc que de façade ? Cette fois, nous y sommes. Le 5 septembre 1661, aux aurores, le roi convoque le sous-lieutenant des mousquetaires et lui donne l'ordre de procéder à l'arrestation convenue. D'Artagnan suit les premières instructions. À 4 heures du matin, il fait partir pour Anceny 10 hommes sous la conduite d'un brigadier. Ils doivent intercepter tout courrier une fois l'arrestation effectuée. Et de 5 à 6 heures, eh bien, c'est le fameux conseil des ministres qui avait été prévu pour que le roi puisse partir ensuite tranquillement à la chasse. Tout est minuté, tout est prêt. L'arrestation doit avoir lieu à l'issue de ce conseil.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire de l'arrestation de Fouquet, c'est la suite de votre récit, Franck.
Oui, donc nous sommes le 5 septembre, comme aujourd'hui, le 5 septembre 1661, à Nantes. À 6 heures du matin, 20 mousquetaires prennent place dans la cour du château de Nantes. D'autres sont près de la deuxième porte, hein, du côté de la ville, et le reste de la compagnie près de la porte du côté des champs. Tout a été bouclé. À l'issue du conseil, les ministres, alors Le Tellier, Lyonne, Colbert, sortent les premiers. Louis XIV retient un instant Fouquet sous un prétexte quelconque. L'objectif, c'est s'assurer simplement en jetant un coup d'œil par la fenêtre, que dans la cour, D'Artagnan et ses mousquetaires sont bien à leur poste. Fouquet prend congé, ces deux grands personnages ne se reverront jamais. Le surintendant descend l'escalier où l'attendaient les habituels solliciteurs. Il faut savoir que les ministres à l'époque sont beaucoup plus accessibles que maintenant, ça n'a rien à voir, donc vous avez toujours des gens qui sont là pour leur demander toutes sortes de choses. Or, D'Artagnan ne doit arrêter Fouquet que lorsqu'il sera sorti du château de Nantes, ça c'est bien entendu avec le roi. Il veut, dans un premier temps, vérifier auprès du ministre Le Tellier qu'aucun changement n'a été prévu entre-temps. Il est donc occupé, l'officier des mousquetaires l'attend pendant de longues minutes, et au moment où le ministre lui confirme que rien n'a changé, D'Artagnan se rend compte que Fouquet s'est envolé. Alors là, c'est l'affolement général. Le surintendant est déjà monté dans sa chaise à porteur, comme on faisait à l'époque, et puis il est sorti. Louis XIV n'en croit pas ses oreilles, il se met en colère, il ordonne qu'on se lance à sa poursuite. Entendons-nous bien, Nicolas Fouquet ne s'est pas enfui. Il est simplement en train de rentrer chez lui. Arrivé sur la place Saint-Pierre, à deux pas de la cathédrale, D'Artagnan réussit à le rejoindre. Il met pied à terre, il ôte son chapeau. La conversation entre les deux hommes est passée à la postérité. « Monsieur, j'ai à vous parler, » dit D'Artagnan à Fouquet. « Cela ne peut-il pas attendre ? Non, ce que j'ai à vous dire ne peut se remettre. » Alors Fouquet descend, le salue, et D'Artagnan procède à l'arrestation. « Monsieur, je vous arrête par ordre du roi. » D'Artagnan lui tend l'ordre d'arrestation signé du souverain, une lettre de cachet. Fouquet lit les ordres sans rien dire, il est de plus en plus pâle. Il demande simplement que son arrestation se fasse sans éclat. On s'assure de sa personne, on le met en sûreté dans une maison voisine où il va être fouillé par D'Artagnan. On saisit ses papiers, on va lui servir un bouillon. Ça c'est une délicate attention due aux soins de Monsieur Colbert. Pour Louis XIV, on peut dire que ce qui vient de s'accomplir, c'est un des actes les plus importants de son très long règne. Sa Majesté peut annoncer aux grands serviteurs qui l'ont suivi jusqu'à Nantes la mise de Fouquet sous les verrous. Louis XIV annonce avoir voulu le frapper, je cite, « lorsqu'il se croirait au plus haut point de sa fortune et dans le pays où il se flattait d'être le plus considéré par les établissements et les avis qu'il avait ». Il informe le conseil des dispositions qui ont été prises. Fouquet sera conduit au château d'Angers, sa femme exilée à Limoges, etc. On va s'assurer de ses possessions en 48 heures. Ai-je besoin de vous préciser que l'état psychique de Fouquet à ce moment-là est épouvantable, bien entendu. Dans la prison d'Angers, l'ancien surintendant est retombé malade. Il n'a été transféré à Amboise que le 1er décembre avant d'être emmené à Vincennes au moment de Noël. Au donjon de Vincennes, Fouquet a une chambre assez vaste située au premier étage et qui a été meublée avec un certain nombre du mobilier et des objets qui venaient de Saint-Mandé, tout près de là. D'Artagnan est toujours présent pour veiller sur le prisonnier. Le voyage, on peut dire, c'est fait, comme tout ce qui concerne Fouquet dans cette affaire à partir de maintenant, c'est fait de nuit pour éviter les soulèvements populaires, les éventuelles injures ou menaces du peuple. Il faut vous dire que l'annonce de l'arrestation du surintendant a fait partout l'effet d'une bombe. Songez que depuis des années, tous ceux qui comptent en France avaient apprécié son intelligence, sa courtoisie proverbiale, sans parler évidemment de sa générosité non moins proverbiale. Des amis aussi prestigieux que Madame de Sévigné ou Jean de La Fontaine, pour ne rien dire du grand Pierre Corneille, se répandent aussitôt en plaintes et en gémissements. Pour le jeune roi, ce cœur outragé des élites françaises peut être regardé comme une véritable épreuve du feu. Louis XIV tient bon, il en profite pour récupérer aussitôt à son service un certain nombre d'artistes réunis par Fouquet à Vaux. Il y a là André Lenôtre, Levaux, Lebrun, etc., tous ceux qu'on retrouvera à Versailles, bien entendu. Décidément, Monseigneur, comme tout le monde l'appelait, avait très bon goût. Il passait allègrement d'un génie à l'autre. À présent, on peut dire qu'il passe surtout de prison en prison. Bonjour Jean-Christian Petit-Fils.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le biographe de Fouquet, vous êtes un des meilleurs connaisseurs de toute cette affaire. Alors avec vous, nous allons voir ce qu'il en advient maintenant et nous allons revivre le plus grand procès du XVIIe siècle.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous sommes au cœur de l'histoire de l'arrestation de Fouquet avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Jean-Christian Petit-Fils, historien, écrivain, spécialiste de l'Ancien Régime, auteur de Fouquet aux éditions Perrin.
Alors ce procès de Fouquet a été, je le disais à l'instant, la plus grande affaire du XVIIe siècle, enfin l'une des plus grandes incontestablement. C'est pour Louis XIV un pari politique extraordinaire, c'est un coup de majesté.
Absolument. Alors Colbert a gagné, la surintendance est supprimée, un conseil royal des finances va remplacer le surintendant, et puis l'administration des finances va s'organiser autour du contrôle général dont Colbert va être le principal acteur, puisqu'il sera contrôleur général des finances.
Donc on réorganise, l'administration très vite. Hein.
Et puis, il faut s'occuper maintenant de Nicolas Fouquet. Alors, une juridiction extraordinaire va être créée, Chambre de justice, présidée par le chancelier Séguier en personne, avec pour adjoint Guillaume de Lamoignon, premier président du Parlement de Paris.
Donc, encore une fois, je le dis pour ceux qui nous rejoindraient, le Parlement, ça n'a rien à voir avec un Parlement politique comme aujourd'hui,
Une chambre de justice.
Voilà, c'est une sorte de super tribunal, si je puis dire.
Alors, des membres du Parlement, des maîtres des requêtes, des représentants des parlements de province et quelques rapporteurs. L'objet de cette chambre de justice, c'est d'instruire tous les crimes et délits financiers depuis l'année 1635, c'est-à-dire la date d'entrée en guerre de la France contre l'Empire, contre l'Espagne. La France entre dans les guerres de 30 ans.
En même temps, on fait semblant de remonter très loin pour que ça n'ait pas l'air d'être un procès trop personnel, c'est ça l'idée?
Oui, mais en même temps, la volonté de Fouquet, c'est de donner un grand coup de balai ou grand coup de torchon,
de
si vous voulez, de Colbert, pardon. Oui. C'est donc de nettoyer les écuries
de Logias. Voilà, oui.
Et bien entendu, de se débarrasser du principal traitant et partisan qui est Nicolas Fouquet, puisqu'il est assimilé simplement à un financier prévaricateur. Alors, une soixantaine de personnes, d'ailleurs, iront à la Bastille, des trésoriers de l'épargne, des collaborateurs proches de Nicolas Fouquet. Donc, c'est un
grande épuration, très vaste
procès. Oui, oui. Donc, on accuse naturellement Fouquet de malversation, de crime de lèse-majesté à cause de l'affaire de Belle-Île. Et la procédure va se dérouler très longue, beaucoup plus longue qu'attendue. D'abord par une phase d'instruction. De mars à octobre 1662.
C'est qu'il faut éplucher tous les comptes, etc. C'est très lourd.
On va aller interroger Fouquet, on va éplucher les comptes, on va saisir les papiers de Nicolas Fouquet.
Y compris des papiers cachés, d'ailleurs.
Compris les correspondances secrètes, avec aussi les correspondances féminines que le roi aura la gentillesse de détruire après les avoir lues. Parce que Fouquet était un grand amoureux, on en reparlera peut-être. Mais donc cette phase d'instruction, elle dure de mars à octobre 1662. Fouquet a interrogé d'abord au château de Vincennes par des magistrats instructeurs. Ensuite, la phase suivante, ça va être la procédure écrite, qui elle va commencer à partir de novembre 1662 et va durer 2 ans jusqu'en 1664. Va intervenir à ce moment-là le rapport du procureur Chamillard, qui va conclure à la culpabilité de Nicolas Fouquet et va demander à ce que Fouquet soit pendu. Donc la peine de pendaison.
Mais c'est donc extrême. Les réquisitions sont extrêmement lourdes. On peut pas être plus dur. Oui.
Ensuite commence la procédure orale. Ça va durer quelques semaines, quelques jours. Fouquet est assis sur la sellette, c'est-à-dire une petite chaise basse, humiliante, devant ses juges et doit s'expliquer oralement. Et là, Fouquet, qui est un magistrat,
ça c'est le coup de théâtre en quelque sorte,
qui est un avocat remarquable, un séducteur, va se défendre avec un acharnement extraordinaire et va séduire finalement une partie des juges. Intervient ensuite le réquisitoire, c'est-à-dire la conclusion du rapporteur, lequel rapporteur s'appelle Olivier Lefebvre d'Ormesson. D'Ormesson était au départ hostile à Nicolas Fouquet, c'est d'ailleurs bien pour ça qu'on
l'a nommé. Avec le
temps. Et puis, voilà, il va évoluer, il va finalement s'apercevoir qu'il y a eu des trucages, des falsifications, notamment les registres de l'épargne. On voit très nettement qu'il y a eu des grattages à tel endroit, tout ça pour évidemment enfoncer davantage Nicolas Fouquet.
Entre parenthèses, ce qui est assez frappant lorsqu'on lit les minutes de ce procès ou qu'on les aborde par le biais d'un certain nombre d'ouvrages historiques, dont le vôtre, Jean-Christian Petit-Fils, c'est que non seulement Fouquet est un brillant orateur et qu'il met souvent ses juges devant des contradictions patentes, mais que par bien des aspects, on se dit qu'il n'a peut-être pas tort. Et l'on se demande finalement si l'on n'est pas en face d'une affaire montée de toutes pièces quand même. C'est l'impression qu'on a en reprenant
alors,
les choses.
Ça c'est la question, Fouquet est-il alors, coupable alors, ou victime?
Ça je vous poserai la question tout bon. À l'heure. Mais déjà, est-ce qu'on peut dire qu'il a bénéficié d'un procès équitable?
Non, c'est un procès tout à fait scandaleux. Il y a eu des pressions sur les témoins, subornation des témoins, falsification de documents, je l'ai dit, pression sur les juges. Colbert avait peuplé cette chambre de justice de tous ses amis, même son oncle Pussor, qui était un homme très vindicatif, très bon juriste, mais en même temps un ennemi parfait de Fouquet. Tout a été organisé pour obtenir la tête de Fouquet. C'est ce que voulait, bien entendu, Jean-Baptiste Colbert.
C'est vraiment un procès à charge, quoi, très clair.
Alors, c'est un procès assez scandaleux. Et le roi a laissé faire, finalement. Il était impatient. Il disait, je veux une justice équitable, mais ça commence à durer trop longtemps. Et dans les pays étrangers, mon image commence à s'abîmer.
Et alors, ce Lefèvre d'Ormesson, et il n'est pas le seul, évidemment, un certain nombre de conseillers autour de lui finissent par se dire qu'il faudrait trouver pour Fouquet une sentence plus en demi-teinte, plus modérée peut-être.
Voilà, alors il va donc plaider pour le bannissement, mm-hmm. après des conclusions très importantes sur lesquelles nous reviendrons, puisque ça va concerner le problème de la culpabilité ou non de Nicolas Fouquet. Donc le bannissement, on va chasser Fouquet hors de France, et puis on saisira ses propriétés, donc on évite la mort. Et les juges, les 22 juges, malgré les pressions de Colbert, eh bien, par 13, donc 22 juges sur 22 juges, 13 votent le bannissement et 9 la mort. C'est le 21 décembre 1664.
Donc, si l'on respecte ce qu'a décidé le tribunal, Fouquet va être banni. Voilà, banni, c'est-à-dire expulsé du royaume.
Exactement. Et le roi est fou furieux. Il avait dit, s'il avait été condamné à mort, je l'aurais laissé mourir. Il dit ça quand il est avec Mademoiselle de la Vallière. On a rapporté ça, cette phrase. Et il va décider une chose assez extraordinaire. En vertu de son droit de grâce, en fait, il exerce la plénitude de la justice. Le roi, c'est le justicier. Mais le roi a deux manières de rendre la justice. C'est la justice déléguée et la justice retenue. La justice déléguée, eh bien, on passe par une chambre de justice, on passe par le Parlement.
Comme ce qu'on a fait. Dit qu'on délègue.
Voilà. Et puis, la justice retenue, c'est on agit par l'aide de cachet. Et
bien c'est
là,
le roi qui décide lui-même.
Après la décision de la justice retenue, il va prendre une décision contraire à la décision du tribunal en aggravant la peine. Donc, en vertu de son droit de grâce, il va aggraver la peine. Je vais encore donner.
Je crois que c'est la seule fois dans l'histoire de France que le droit de grâce a été utilisé pour alourdir.
Ça a été une fois utilisé par Louis XIII pour un ministre.
Fois, mettons,
mais
voilà.
C'est la deuxième fois.
Ouais.
En tout cas, il va donc condamner Nicolas Fouquet à la prison perpétuelle à la forteresse de Pignerol en Italie du Nord.
Alors vous me voyez venir évidemment Jean-Christian Petit-Fils, je vais vous demander dans un instant si Fouquet était vraiment coupable, qu'en pensez-vous en ce qui vous concerne. Deux petites choses avant cela, sur ce que vous venez de dire, je voudrais souligner deux choses. D'une part c'est que ces réquisitions sur la pendaison, elles s'inscrivent dans une longue tradition puisque les grands argentiers du royaume ont souvent été pendus autrefois sous les règnes précédents.
Gérard de la Guette, Jean de Montagu, Beaune de Semblançay, il n'y a que Jacques Coeur qui a échappé, mais lui a réussi.
Parce qu'il s'est sauvé.
Voilà.
Et puis, par ailleurs, on est bien dans ce grand processus de nettoyage. Vous avez parlé tout à l'heure de ce nettoiement. Hein. Colbert est en train de faire entrer la France dans l'administration moderne. Et tout simplement, ce qui est en train de se passer, c'est un changement de système. C'est-à-dire que on essaie peut-être de juger Fouquet en 1660. On essaie de juger des pratiques qui étaient celles des années 1630, peut-être. Vous allez nous dire si, à vos yeux, il était ou non coupable.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi de l'arrestation de Fouquet avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Jean-Christian Petit-Fils, historien, écrivain, spécialiste de l'Ancien Régime.
Jean-Christian Petit-Fils qui a refait les comptes. Alors, Jean-Christian Petit-Fils, est-ce que Fouquet était vraiment coupable? Est-ce qu'on a bien fait de le condamner?
Alors, vous savez, Fouquet a participé finalement à tout ce jeu financier dans un désordre extravagant pendant la période de la Fronde et même après la Fronde. Un des prédécesseurs de Nicolas Fouquet à la surintendance des finances, le président de Maison, celui qui a fait construire le château de Maison Lafitte, avait dit, parce qu'on l'avait chassé, là c'était trop voyant, c'est volerie, comme on disait, il avait dit... Ils ont tort. J'avais fait mes affaires et j'allais faire les leurs.
Chaque chose en son temps.
Voilà.
Et il s'est arrêté à mi-chemin, dommage.
Alors, bon, Nicolas Fouquet, c'est un juriste, un démarcheur mondain. Ce n'est pas un technicien de la finance. Mais il s'est appuyé sur des équipes et il a participé, bien évidemment, je m'en suis bien aperçu en faisant les comptes, à tout ce jeu financier, à ces mécanismes financiers, ces désordres généraux, ces taux extravagants, parce que personne n'a confiance dans l'État, donc les taux sont prodigieux. On arrive à
le rendement de l'argent 30, est énorme.
30, 40, 50, on a même un traité, le traité du Marc d'Or, qui s'élève à 55%. 900 000 écus reviennent dans les caisses du roi au lieu de 2 millions. Donc, et à ce moment-là, précisément, Fouquet dit, mais attention, moi j'ai une créance de 900 000 écus parce que j'ai prêté de l'argent à Mazarin. Les comptes sont mélangés, l'argent passe des comptes de Fouquet aux comptes de l'État et vice-versa.
Et vice-versa, surtout.
Il y a un désordre total. On sait que Nicolas Fouquet avait un revenu d'environ 150 000 livres par an, 150 000 francs. Mais il dote sa fille.
Ce qui est une somme considérable.
Très important. Il dote sa fille de 600 000 livres. C'est énorme. Il dépense à Vaux-le-Vicomte, par les achats, les acquisitions de terres, les constructions, etc., à peu près 4 millions.
Oh mon Dieu.
Il achète d'autres propriétés.
Ce serait des dizaines de millions d'euros.
À Concarneau, à Largouette. Le comté de Largouette, c'est 70 seigneuries, 37 moulins, 113 métairies et 1200 fermes.
Oh là là.
Il achète tout ça. Alors, souvent, il signe un papier, il paye pas. Parce qu'évidemment, il est monsieur le surintendant des finances, donc on a des papiers, l'argent ne circule pas. Une des techniques utilisées, c'est très complexe la finance, mais il y a juste un petit détail, une des techniques financières utilisées. Vous savez qu'il n'y a pas de budget unifié, il n'y a pas de fongibilité des recettes, ni des dépenses. Donc ça, c'est seulement la Révolution qui introduira ça. Donc il y a des caisses affectées pour chaque recette et pour chaque dépense. Prenons une caisse, vous avez une caisse qui reçoit, par exemple, les gabelles du Languedoc. Bon, et puis, elle va payer les gardes suisses. Il se trouve qu'il y a une révolte dans le Languedoc, donc l'argent des gabelles ne rentre pas, donc on distribue des papiers, des billets, les billets de l'épargne, qui vont circuler comme des billets de monnaie en attendant l'arrivée des bonnes espèces. Mais évidemment, ces billets se déprécient parce qu'on sait que l'argent ne va pas rentrer. Un des pouvoirs du surintendant des finances, c'est de réassigner, c'est-à-dire de réaffecter,
redonner valeur,
de nouvelles recettes. On va trouver de nouvelles recettes. Et à ce moment-là, les billets, évidemment, reprennent toute leur valeur. Mais entre-temps, monsieur le surintendant des finances, là, on est en plein délit d'initié si vous voulez, à acheter.
C'est plus qu'un délit d'initié, parce qu'il est ordonnateur et payeur.
Exactement. Et il distribue ses papiers à ses amis, les amis poètes, donnez-moi quelques billets. Voilà donc les pratiques de Nicolas Fouquet, qui sont, il faut le dire, des pratiques de l'époque, et qui correspondent aussi aux techniques de Colbert, qui était l'intendant de Mazarin, et à Mazarin lui-même, qui a fait une fortune prodigieuse en faisant, en entassant l'or, en étant munitionnaire, en faisant des trafics sur le cuivre, les armes, les baudriers, les mousquets.
Et qui construisait des palais.
La solde des troupes, il grattait sur la solde des troupes. Il s'est fait corsaire, donc
il armait des bateaux de piraterie. Oui.
Il armait des et de la même manière d'ailleurs, Nicolas Fouquet a fait la même chose à Lisieux.
Quand on vous entend raconter tout ça, on se dit que finalement, on va pas trop pleurer sur le sort de Fouquet, qui faisait partie de ces très grands. Alors, j'allais dire prévaricateurs. Ça faisait partie. C'était les mœurs de l'époque. En même temps, il n'était pas particulièrement malhonnête. Il était simplement, il profitait énormément d'un système déréglé.
C'est un homme de pouvoir plus que d'argent. Cherche pas l'argent. D'ailleurs, sa fortune, quand on fait l'État, comme il a acheté énormément de choses sans payer, eh bien, on fait l'actif et le passif, on s'aperçoit que finalement, il ne s'est pas énormément enrichi. Mais enfin, dans son compte d'exploitation, a circulé tous les fonds, les soldes
tout
des
ça,
troupes,
etc. Dans une période, évidemment, où une partie non négligeable de la population vit dans des conditions très, très précaires et très difficiles. Donc, il y a un très grand... On est dans une période de contraste phénoménal dans ce début du XVIIe siècle.
Hein, bien entendu, avec une économie qui n'est pas totalement monétarisée.
En plus,
On vit de troc à la campagne.
Oui, donc c'est très spectaculaire le décalage, évidemment. Alors, Pourquoi, à partir de là, pourquoi regrette-t-on qu'on ait condamné Fouquet? Alors, il faut dire qu'il sera envoyé à la forteresse de Pignerol. Hein, c'est des conditions de vie. La fin de sa vie est sinistre, évidemment.
Alors, hein. Oui, très difficile. On lui a donné, quand même, malgré tout, un appartement d'une centaine de mètres carrés. Donc, il a deux valets, il a deux pièces, une antichambre. Il n'est pas.
Il est dans le carré VIP, comme on dirait aujourd'hui.
Voilà, exactement. C'est pas un cul de base fausse. Mais enfin, le donjon de Pignerol, qui est en fait une sorte de Bastille italienne. Mais Pignerol est une ville française.
À l'époque, ça fait partie de la voilà, du Rognon.
Dans le Piémont, sur le versant italien des Alpes. C'est pas toujours très gai. Il fait très chaud l'été, très froid l'hiver. Il est étroitement surveillé. On a construit des jalousies extérieures à ses fenêtres. On a toujours peur qu'il fasse des signes. Il y a une compagnie franche qui est affectée à sa garde. Et l'un des officiers mousquetaires de D'Artagnan, Monsieur de Saint-Mars, est en charge de sa garde. Alors, pendant des années et des années, il va mener une vie de reclus, sans pouvoir écrire, sans pouvoir communiquer à l'extérieur. C'est seulement à partir de 1677 que le roi commencera à libéraliser son régime carcéral. Il pourra voir sa famille l'année suivante, se promener dans l'enceinte du donjon, puis dans l'enceinte de la citadelle, recevoir des amis. On allait probablement vers une libération
quand
le 23 mars 1680, il meurt.
En 1680, donc 19 ans après sa condamnation. Alors, il y aurait beaucoup à dire aussi sur cette mort et sur cette date, mais on n'a pas trop le temps. Julien nous demande par Internet si ce que vous pensez de la thèse qu'il voulait faire de Fouquet, l'homme au masque de fer, vous qui avez écrit un livre sur le masque de fer.
Alors, Fouquet n'est pas très loin de l'affaire de l'homme au masque de fer, puisqu'en fait, pour moi, et je pense que pour la plupart des historiens, l'homme au masque de fer, c'est un des valets de Fouquet. Fouquet avait deux valets, je l'ai dit, et l'un de ses valets s'appelle Eustache d'Angers et c'est lui qui sera ultérieurement l'homme au masque de fer pour des raisons assez complexes.
Est-il vraiment mort à la forteresse de Pignerol, demande Bruno. J'ai envie de répondre oui, comme ça on est tranquille. Et Nathalie
oui,
nous dit...
absolument. On a retrouvé les frais d'enterrement de Metz pour ses obsèques.
Et Nathalie nous dit, j'ai visité son château cet été. C'est une merveille. Le château en question, c'est évidemment Vaux-le-Vicomte. Et vous savez qu'en ce moment, pour les 30 ans de l'Association des Amis de Vaux-le-Vicomte, une exposition a lieu chez Fouquet. Exposition dans laquelle on trouve notamment une lettre de Monsieur de Saint-Marc, qui était le geôlier de Fouquet à Pignerol, lettre adressée à D'Artagnan pour recommander à D'Artagnan la plus grande fermeté envers le prisonnier. Cette expo est donc au château de Vaux-le-Vicomte jusqu'au 3 novembre. Évidemment, l'ouvrage de Jean-Christian Petit-Fils Fouquet est incontournable. C'est une grande biographie. C'est un livre qui est paru chez Perrin. Alors, on a parlé là du procès, de la condamnation, etc. On n'a pas parlé de la personnalité du bonhomme. Vous lui consacrez des dizaines de pages passionnantes, Jean-Christian Petit-Fils. C'est donc un livre très recommandé. Et puis, de Simone Berthière, bientôt, mais ça n'est pas encore sorti, un livre précisément sur le procès Fouquet, qui a été, comme je vous le disais, l'un des grands procès du XVIIe siècle. Merci beaucoup d'avoir éclairé notre lanterne.
Merci.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous savez ce dont vous parlez, puisque les pièces, vous êtes allé les inspecter. Vous avez refait les comptes. Et oui, ça c'est formidable. Merci Jean-Christian Petit-Fils.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
14h-15h, Franck Ferrand.
Et c'est l'heure de votre nouveau rendez-vous. Franck, vous nous emmenez aujourd'hui aux origines d'une passion bien française, celle des jardins.
Eh oui, on dit souvent une passion britannique, mais les Français adorent les jardins, vous savez. Et dès demain, a lieu à Gassin, sur la Côte d'Azur, sur la route de Saint-Tropez, la rencontre de jardins de Gassin, vous savez, avec 200 professionnels sur le thème « Les jardins s'envoient en l'air », ça promet ça comme thème. Alors, l'histoire de ces jardins, elle commence, j'avais presque envie de dire, avec la sédentarisation. C'est très vieux, les plus anciennes civilisations. Évidemment, faisait déjà des jardins. Vous savez qu'en avestique, en langage mésopotamien, paradiso, ça voulait dire jardin, et paradiso, ça a donné le paradis. C'est le jardin d'Éden, finalement. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les très anciens jardins, et babyloniens, et égyptiens, etc. Les premiers jardins botaniques en tant que tels, ils sont créés par le grec Théophraste. On est au 4e siècle avant notre ère, quand même. C'est un homme qui suivait à Athènes les leçons de Platon, puis d'Aristote. Il va succéder à Aristote à la direction du lycée, du reste. Eh bien, il va planter ce Théophraste compte 500 espèces de plantes, hein, des espèces rares, et il publie son, enfin, il publie, si je puis dire, il écrit les recherches sur les plantes. On peut dire qu'il est considéré comme le père de la botanique. Et c'est un savoir, ça, qui, contrairement à bien d'autres, ne se perdra jamais, en quelque sorte, puisque au Moyen-Âge, dans les monastères, bien entendu, on continue à étudier de très près la botanique et le rôle et les pouvoirs des plantes. Il y a une dimension utilitaire des jardins, bien entendu, fonctionnelle. Je parle pas là des vergers et des potagers, je parle vraiment des jardins d'agrément. Il y a surtout une fonction esthétique. Et ça, c'est assez fort parce que dès le 14e, 15e siècle, dans l'Italie, à Florence, par exemple, mais je pense aussi au plan de Bramante pour le belvédère de Rome, par exemple, on va avoir des jardins d'agrément, des jardins d'ornement, qui sont les dignes et immédiats héritiers de l'Antiquité. Alors, notre jardin à la française, on en a parlé déjà souvent à ce micro, est-ce qu'il est véritablement dû à le nôtre, dont on célèbre et dont on va célébrer surtout dans quelques semaines le 400e anniversaire de la naissance? Eh bien non, parce qu'en fait, le véritable fondateur de la notion de jardin à la française, c'est un certain Jacques Boisseau de la Baroderie, et lui travaillait pour Henri IV, pour Marie de Médicis et pour Louis XIII. Vous êtes bien accueillis. Bonjour Hélène Amandin.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors, du jardin, nous allons nous vous entraîner au potager, justement. Figurez-vous que c'est un phénomène, les potagers urbains. Ça devient la solution anti-crise, la solution anti-malbouffe. Et puis, ça devient aussi une solution solidaire pour tisser du lien. C'est un phénomène dont on parle avec vous et avec les experts européens. Si vous avez des questions, si vous voulez parler d'initiatives près de chez vous, vous n'hésitez pas. C'est le 39-21, 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr. À vos aromatiques.
Vous avouerez que c'est une belle transition, hein, quand même. Merci beaucoup, Hélène. Nous nous retrouvons demain, Céline.
Avec plaisir, Franck, à demain.